Alors, je pense que tous ceux qui ont des lunettes et ceux qui n'en ont pas voient comme moi, c'est un petit peu sombre. Et je pense que c'est une bonne image, ces lunettes. Les lunettes qui viennent du savoir-faire des hommes pour voir plus précisément, et la lumière qui vient de Dieu pour qu'on voit clair avec nos lunettes. Voilà, c'est moi qui ai susurré à l'oreille de Corinne de vous rapprocher, parce que j'ai besoin de proximité. Je trouve qu'on se connaît assez pour ne pas mettre trop d'espace entre nous. Donc, merci d'avoir fait le pas, au propre et au figuré. Alors, bienvenue dans le premier épisode de votre feuilleton de l'été, une saison, une histoire qui vous tiendra en haleine pendant 4 dimanches. Le livre de Ruth est une belle histoire d'amour. Moi, j'en ai vu 2. Elle est courte, elle est très bien écrite et avec une fin comme on les aime. Moi, je ne voyais pas du tout ce que je pourrais vous en dire de plus, mais vous savez que des trésors se cachent dans les Écritures dès qu'on s'y penche de plus près. Alors, je vais essayer de vous transmettre quelques perles dans un temps trop court pour moi, évidemment, mais qui risque quand même de vous assommer un peu. Comme d'hab, m'a dit un de mes fils, tu liras la conclusion et ça fera les 20 minutes. Vous voici avertis. Donc ce que je vous demande, c'est merci d'avance pour votre attention et pardon pour les quelques minutes que je vais dépasser. Et on va commencer tout de suite. Je ne suis pas assez à l'aise pour lire comme ça, donc je vais vous jeter des petits coups d'œil. Et comme ça, ben, je suis bien mon texte, mais je suis de tout cœur avec vous. Hein. Alors, dans l'analyse de texte que j'ai choisi, on va faire vraiment un texte, une lecture serrée. Je ne vais pas faire le va-et-vient que l'on peut faire entre le texte et nous. Ça, je vous laisse faire cette partie, parce que quand un élément trouve un écho en nous, eh bien, vous l'accueillez et vous le gardez. Les Écritures, vous savez bien, nous parlent souvent par résonance en nous. Et vous accueillez et vous y repensez, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça que l'on progresse dans notre foi. Et voilà, et c'est aussi la grande force de la parole. Moi, je n'y suis pour rien. Alors, le texte, moi j'ai le premier chapitre pour aujourd'hui. Il y eut une fois, au temps des juges, une famine dans le pays. Du coup, un homme de Bethléem de Juda émigra dans la campagne de Moab. Lui, sa femme et ses deux fils. Cet homme s'appelait Elimelec, sa femme Noémie et ses deux fils Malon et Kilion. C'étaient des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent donc dans la campagne de Moab et vécurent là. Voici que mourut Elimelec, le mari de Noémie, et elle resta, elle et ses deux fils. Ils prirent pour femme des Moabites. L'une s'appelait Orpa et la seconde Ruth. Ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis Malon et Kilion moururent aussi, tous les deux. Et cette femme resta, sans ses deux enfants, ni son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab. Car elle avait entendu dire dans la campagne de Moab que le Seigneur s'était occupé de son peuple pour lui donner du pain. Aussi partit-elle de la localité où elle vivait avec ses deux belles-filles. Elles se mirent donc en chemin pour retourner au pays de Juda. Mais Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune chez sa mère. Que le Seigneur agisse envers vous avec fidélité, comme vous avez agi envers les défunts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver un état chacune chez son mari. » Et elle les embrassa. Alors elles élevèrent la voix et pleurèrent, puis elles dirent, « Non. Avec toi, nous retournerons à ton peuple. » Mais Noémie dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon ventre qui deviendraient vos maris? Retournez, mes filles. Allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et même si je disais, « J'ai de l'espoir. Oui, j'appartiendrai cette nuit à un homme. Oui, j'enfanterai des fils. Est-ce que pour autant, vous attendriez qu'ils aient grandi? Est-ce que pour autant, vous abstiendrez d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car pour moi, l'amertume est extrême, plus que pour vous. C'est contre moi que s'est manifestée la poigne du Seigneur. » Alors, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Puis Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Alors elle dit, « Vois, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Mais Ruth dit, « Ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai. Et où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Le Seigneur me fasse ainsi, et plus encore, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. » Voyant qu'elle s'obstinait à aller avec elle, elle cessa de lui en parler. Elles marchèrent donc toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. Voilà que lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut en ébullition à leur sujet. Les femmes disaient, « C'est Noémie ?» Mais elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Puissant m'a rendue amère à l'extrême. C'est comblé que j'étais partie et démunie, me fait revenir le Seigneur. Pourquoi m'appelleriez-vous Noémie alors que le Seigneur a déposé contre moi et que le Puissant m'a fait du mal ?» Ainsi revint Noémie, et avec elle Ruth, la Moabite, sa petite fille, celle qui est revenue de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Voilà, comme Corinne l'a dit, c'est moi qui ouvre les feux. Et dans ce premier chapitre, avant de commencer, je suis absolument obligée, pour moi et les suivantes, de planter le décor, parce que c'est dans ce tableau que se déroulera toute l'histoire. Alors c'est un petit peu ardu comme ça, mais en fait une fois n'est pas coutume, et vous savez que la grande richesse de Villard, c'est que chaque intervenant qui vient, vient avec sa façon d'être et d'approcher le texte. Le genre littéraire, le livre de Ruth n'est ni une prophétie ni une parabole. Il ne donne pas plus de conseils ou de règles de conduite, et on l'a classé dans les livres de sagesse, comme les Proverbes, la Genèse, Jonas ou Job. Le genre littéraire du livre est le conte historique, appelé novella. Je vous en cite les caractéristiques car elles donnent un éclairage intéressant pour comprendre le texte. La première chose, c'est la vraisemblance. Cela aurait pu se passer. La deuxième chose, c'est l'abondance et l'importance des dialogues. Sur 85 versets, 55 sont consacrés aux dialogues. Une troisième chose, c'est une intervention divine minime qui se situe dans le cours providentiel des événements, on dira le hasard, ou des hommes et des femmes qui deviennent ses porte-parole. Et quatrièmement, le récit se termine avec une fin ouverte sur un développement ultérieur possible. Il a été écrit en hébreu, peut-être dans la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais une datation plus récente n'est pas exclue. La construction du texte est très raffinée, tout en symétrie et en harmonie, et le tout dans une prose rythmée. Et bien sûr que la lecture d'un seul chapitre et la traduction en français ne permettent pas de voir tout cela, mais peut-être que Maria Sper vous en dira un peu plus, car c'est très intéressant. Concernant l'auteur, certains l'attribuent à Samuel, d'autres à une femme cultivée par le choix d'une héroïne et certains détails de l'histoire. Et si on veut rester prudent, on dit auteur anonyme. Le contexte maintenant qui est très très important, on a un repère temporel qui est donné par l'auteur, c'est le temps des juges. Le temps des juges qui décrit les soubresauts de l'histoire d'Israël, les guerres entre ses tribus, ses infidélités, ses péchés qui attirent le malheur. C'est une des périodes les plus sombres de son histoire qui se situe après la conquête de Canaan, la terre promise, et avant l'instauration de la monarchie. Ce sont des juges conseillers qui prennent en charge la destinée du peuple qui est aux prises avec les coutumes locales qui le détournent de Dieu. Temps difficile à gérer, car comme le dit la fin du livre des juges, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Le livre de Ruth est donc un livre juif, écrit pour des juifs. Ce livre, dans une première lecture, est une simple idylle qui offre une respiration bienvenue et un peu de fraîcheur dans ces temps chaotiques. Quelles sont les personnes qui ne connaissent pas le livre de Ruth? D'accord, très bien. Et dans une étude plus approfondie, il révèle des anormalités et des digressions étonnantes que nous allons découvrir ensemble. L'histoire, tellement elle est simple qu'elle se prête à de nombreuses interprétations. On peut lui faire dire ce qu'elle dit et on peut lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Et elle a suscité de nombreux commentaires. Et pour ma part, même si j'ai choisi de rester attachée au texte, je n'échappe pas à l'interprétation. Alors, l'analyse du texte, j'ai divisé le texte en 6 parties. Je ne vais pas relire à chaque fois, je vous le laisserai sous les yeux et puis vous ferez, vous, la lecture quand vous en aurez besoin. Alors, l'histoire commence bien par un « il y eut une fois » comme les contes, mais les quelques indications qui suivent suscitent la curiosité et valent la peine qu'on s'y arrête. On va d'abord voir quelques mots qui sont déjà contenus dans cette introduction, parce que nous, avec le recul, avec le temps, ces repères géographiques ne nous parlent plus beaucoup, sauf si on est très familiarisé avec l'Ancien Testament. La famine, par exemple, c'est un danger qui pèse toujours sur la destinée des hommes qui sont installés sur cette terre qui est calcaire et qui n'a pas, comme ils ont connu en Égypte avec le Nil, l'assurance d'une irrigation régulière, en sorte qu'on ne peut y vivre que de la grâce de Dieu. Bethléem, c'est bien le village où naîtra Jésus, Bethléem de Juda, parce qu'il y en a un autre qui est ailleurs. Nous verrons la situation de l'émigré et de l'étranger plus précisément dans le deuxième feuilleton, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. On a le pays de Moab. Le pays de Moab, c'est un plateau fertile qui est à l'est de la mer Morte, qui est facilement accessible aux Israélites par le nord. Les habitants sont apparentés aux Israélites, selon Genèse 19:37, et en effet, Moab et Ammon sont les deux fils de Lot, issus de relations incestueuses avec ses filles, qui voulaient assurer une descendance à leur père après avoir fui Sodome. De plus, le pays de Moab a refusé de nourrir le peuple d'Israël qui traversait ses terres dans sa dernière étape lors de l'exode d'Égypte. C'est donc une terre ennemie, impure, maudite, païenne. Les textes sont clairs concernant ses habitants. Dans Deutéronome 23:4, on lit « Jamais l'Ammonite et le Moabite n'entreront dans l'assemblée de Yahvé. Même la dixième génération des leurs n'entrera pas dans l'assemblée de Yahvé. » Il y a encore les femmes moabites. Les femmes moabites ont poussé le peuple à la débauche et à l'idolâtrie. Elles provoquent ainsi la colère de Dieu. Elles ne valent pas mieux pour des juifs que des prostituées. Et c'est un scandale de les épouser. Ces mariages mixtes sont interdits par la loi. Pour ramener la pureté de la foi, c'est Esdras qui a obligé les juifs qui ont épousé des étrangères à les répudier. Voilà, vous voyez que 5 petits versets comme ça n'ont l'air de rien, mais vous avez là toute la trame qui se jouera dans cette histoire. Dans cette période agitée après l'exil, Esdras et Néhémie sont à la fois réformateurs religieux et gouverneurs de Judée. Ils prennent des mesures pour réorganiser la communauté juive du mieux qu'ils le peuvent, mais le ton se durcit, la loi s'applique à la lettre et commence à se figer. Elle devient légaliste. Et maintenant, nous allons impérativement nous arrêter sur cette loi, car elle est vraiment sous-jacente à toute l'histoire. Cette loi, dans l'Ancien Testament, vous la connaissez. En raccourci, cela donne le péché, la désobéissance à Dieu, amène une punition, une malédiction ou une nature hostile. Alors que l'obéissance et le repentir amènent la bénédiction, l'abondance ou une nature favorable. Cette loi va dans le sens de la vie. Elle construit les rapports humains, elle met de l'ordre dans les relations et les comportements. Elle favorise la justice et la paix. Donc elle bute pour le bonheur de tout le peuple, afin que vous soyez heureux. Cette loi signe aussi l'alliance du peuple d'Israël avec Dieu qui l'a choisi. Et qui dit alliance, dit contrat. Qui dit contrat, dit condition à remplir. Je vous lis dans Deutéronome au chapitre 7, les versets 6 à 10, et Deutéronome chapitre 11, 26 à 28. Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour devenir le peuple qui est sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais si le Seigneur, d'une main forte, vous a fait sortir et vous a racheté de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte, c'est que le Seigneur vous aime et tient le serment fait à vos pères. Tu reconnaîtras que c'est le Seigneur ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu vrai. Il garde son alliance et sa fidélité durant 1000 générations à ceux qu'il aime et garde ses commandements. Mais il paye de retour, on peut traduire aussi l'use directement de représailles, il paye de retour directement celui qui le hait, il le fait disparaître. Il ne fait pas attendre celui qui le hait, il le paye de retour directement. Et aussi, vois, je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur, votre Dieu, et si vous vous détournez du chemin que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Donc voyez que je n'ai rien inventé. Il y a bien d'autres textes qui parlent de la loi de cette façon. Moi, je ne vous cache pas que je ne suis pas vraiment à l'aise avec ces textes, et je pense que ce qui m'aide à comprendre, c'est le parallèle qu'on peut faire quand on est parent. On aime, on adore, on aime nos enfants, mais on leur donne des règles qu'ils n'ont en général pas envie de suivre. Et pourtant, nous, parents, nous savons qu'elles sont indispensables parce qu'elles les protègent, elles leur apprennent à vivre les uns avec les autres. Et nous pouvons, nous parents, nous savons, nous anticipons, nous avons l'expérience. Je crois aussi comprendre que ces préceptes étaient nécessaires pour, comme le dit Deutéronome, l'aujourd'hui de ces hommes de l'ancienne alliance qui avaient des mœurs rudes et peut-être que ces préceptes parlaient à leur cœur de cette façon. Et puis souvenons-nous aussi que quelques siècles plus tard, Jésus est venu non pour abolir cette même loi, mais l'accomplir. Et l'accomplissement de la loi, c'est son dépassement. Mais elle demeure le point de départ et de référence. Car comment saisir la grâce, l'amour inconditionnel, si l'on ne connaît pas d'abord le donnant-donnant, la mesure pour la mesure, œil pour œil, dent pour dent, et l'amour conditionnel? Je vous donne un exemple d'accomplissement de la loi, comme l'a fait Jésus, dans Jean 9, versets 1 à 3. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Et vous vous souvenez que l'aveugle sera guéri, créant la consternation parmi les pharisiens. Retournons au texte. Alors vous voyez que dans cette introduction, l'interprétation de la faute n'est pas mentionnée. Rien n'indique la culpabilité de quiconque. L'auteur ne fait allusion à aucun jugement. Il laisse ouvert. Mais peut-être qu'à l'époque, la punition divine était implicite, mais le texte ne le dit pas. Cette introduction fortement résumée montre que ce n'est pas là le propos de l'auteur de s'arrêter sur ces événements pourtant dramatiques, car le récit commence véritablement au verset 6. Je l'avais, hein, mais j'attends. Ouf ! Voilà. Alors on va prendre cette première partie et vous voyez que ça commence mal. Les trois hommes de la famille ont disparu, laissant trois femmes veuves, sans enfants, livrées à elles-mêmes. Et c'est ensemble qu'elles partent. Noémie devient le personnage principal. Elle est déjà mise en évidence à partir du verset 3. Et quand on parle d'elle, elle est déjà en tant que sujet. Et c'est elle qui va parler en premier. Et rappelez-vous que tous les dialogues sont déterminants. Noémie sera présente du début jusqu'à la fin de l'histoire. Ruth deviendra l'héroïne, mais pas tout de suite. Elle entend dire que Dieu a rendu la prospérité à son pays. Et voici l'intervention de Dieu dans ce chapitre. Et cela suffit pour qu'elle entre dans une phase active de sa vie. Elle prend une décision qui appartient normalement à un homme. En fait, vous me direz qu'elle n'a pas le choix. Elle se lève et se retourne au pays. Et ça, il faut qu'on sache que dans une société patriarcale, la veuve, qui n'est plus sous la protection d'un père ou d'un fils aîné adulte, est sans ressources. Elle peut retourner dans sa famille, si celle-ci l'accepte, ou chercher à se remarier, ou mendier, ou se prostituer. Noémie réfléchit en chemin et elle ne veut pas entraîner ses belles-filles dans cette aventure. Elle ne veut pas qu'elles se sacrifient pour elle non plus. Allez, vous n'avez pas d'avenir avec moi, retournez dans vos familles. Remariez-vous, ayez des enfants, soyez raisonnables. Et elle les bénit, ce qui est totalement impensable quand on connaît le contexte. Des étrangères en terre pure sont bénies par une juive au nom du Seigneur. Noémie ose penser que son Dieu sera sensible à tant de fidélité et d'attention déployée et qu'il peut agir en faveur de ses belles-filles pour les récompenser, même si elles sont moabites. Les frontières peuvent sauter dans ces cas-là. Paul dira plus tard, il n'y a plus ni juif ni grec. Et dans la bouche de Noémie, on entend déjà, il n'y a plus ni juif ni moabite, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'étrangers quand on aime. Et elle les embrassa. Noémie revient à la charge dans cette troisième partie avec des arguments cette fois qui devraient avoir raison de l'entêtement de Ruth et Orpa, des arguments qui tombent sous le sens. À travers ces mots, vous remarquez qu'elle parle beaucoup d'elle. On entend sa souffrance de femme qui a perdu mari et fils, trop âgée maintenant pour se remarier et enfanter. C'est pourquoi son sort est plus amer que celui de ses belles-filles. Elle souffre du jugement de Dieu. Elle sait qu'elle a quitté la terre promise et que des Moabites ont été introduites dans la famille. Mais c'est dur. Nous allons maintenant parler des trois femmes. On aurait tendance à avoir un parti pris en faveur de Ruth contre Orpa, qui change d'avis et qui abandonne les deux femmes. L'auteur n'en a pas. C'est une ouverture qu'il laisse à l'appréciation du lecteur. Convaincu cette fois par les arguments de Noémie, Orpa choisit de rester fidèle à ses origines, ses racines, sa famille. On ne peut pas lui reprocher d'opter pour la sécurité auprès des siens. Elle écoute sa belle-mère. Son attitude est réfléchie, raisonnable, normale. C'est Ruth qui fait le choix extraordinaire de tout quitter pour rester avec sa belle-mère. Ruth saisit bien aussi l'enjeu de la situation comme Orpa, mais elle voit aussi la solitude et la souffrance de sa belle-mère qu'elle a appris à aimer avec toutes ces années passées ensemble. Elle lui fait une véritable, je pense que vous serez d'accord avec moi, elle lui fait une véritable déclaration d'amour. Car ce sont là les mots des vœux de mariage qu'elle prononce. Le verbe « s'attacher à elle », très fort, est le même que celui que l'on trouve dans Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, littéralement se collera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. S'attacher, c'est briser d'autres attaches. Ruth s'engage d'elle-même à tout quitter pour suivre Noémie partout où elle ira. Elle est prête à se déraciner, à adopter son peuple et son Dieu, qu'elle ne connaît finalement qu'à travers sa belle famille. Cette promesse, on le pressent, va jouer un rôle dans la suite des événements. Noémie, devant ce dévouement absolu que contient cette déclaration, eh bien on ne sait pas si l'inverse est vrai. Pas de réponse, pas d'effusion, pas d'opposition du côté de Noémie. Devant Ruth résolue et obstinée, elle décide de ne plus en parler. Et à cause de ce silence, on est porté à croire que Ruth aime plus que Noémie. Cela peut arriver dans une relation. Mais le texte ne le dit pas. Encore une ouverture. On peut penser que c'est une discrétion devant des propos qui imposent le respect et le silence. On peut penser que Noémie, du fond de sa détresse, ne saisit pas très bien la portée de ses paroles. Elle n'entend pas. On peut penser que Noémie est contrariée aussi. Ruth va lui créer d'autres problèmes comme Moabite dans son pays. On peut penser, on peut continuer à penser. J'ai choisi la gravure de Gustave Doré pour illustrer ce passage où je trouve que ce moment dramatique de séparation est bien mis en évidence dans une terre désertique, aride, et une prend une direction, les deux continuent, et on sent bien, je trouve, l'affection qui relie les trois femmes. Voilà, moi, je me suis laissée intriguer par le type de relation entre Ruth et Noémie, ça dépend, on peut dire Naomi aussi. De quoi cette relation est-elle constituée ? On serait tenté d'y voir une relation de couple. Ce qui précède, et la suite vous le dira, ça n'est pas le cas. Mais l'intensité de cet engagement de Ruth y fait penser. Elle ne deviendra pas une seule chair, mais une entité forte, et leur union sera solide. Pour moi, c'est la première histoire d'amour de ce livre. Est-ce que c'est une relation de profonde amitié ? L'affection et l'attachement y sont, comme l'amitié entre David et Jonathan. Mais il manque la réciprocité. Ruth se place ici dans un rapport de soumission volontaire. Elle suivra sa belle-mère jusqu'à la mort. On se rapprocherait alors plus d'une relation de parenté, mère-belle-fille. Alors le respect, avec le respect, la bienveillance de la plus jeune pour la plus âgée. Mais là aussi, l'affection de Ruth est démesurée, elle en fait trop. Il existe aussi une relation particulièrement forte qui se noue dans les temps difficiles, et c'est le lien de solidarité. On se met ensemble parce que c'est dur. On se tient les coudes, on s'épaule pour être plus fort et pour tenir dans l'adversité. Que va-t-on choisir pour qualifier cette relation complexe ? Elle est tout ce que je viens de dire et autre chose en même temps. C'est une relation hors catégorie. On a l'habitude de donner l'amour entre un homme et une femme comme l'exemple parfait pour décrire l'amour, le vrai. Et on a tendance à le rechercher comme presque seule source de bonheur. C'est une croyance que nous avons. Ici, une relation différente et tout aussi forte, sans connotation sexuelle, entre deux femmes est proposée. Une union qui sort des conventions sociales, qui sort de l'ordinaire. L'affection de Ruth s'inscrit dans un mouvement de compassion qui va au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'une belle-fille. Elle s'inscrit dans un amour qui dépasse le sens du devoir, qui surpasse ce qui est demandé dans la loi. Son attachement est un acte gratuit de bonté. Ruth est dans le don de soi. Et si cela vous fait penser à quelqu'un d'autre, vous avez raison. Et je pense que vous pouvez connaître ou avoir connu ce type de relation de grande intensité, de grande qualité, qui encourage, qui aide à grandir, qui aide à se sortir d'un mauvais pas. Nous allons passer à la cinquième partie. C'est l'arrivée à Bethléem et on reconnaît Noémie. Mais est-ce bien elle ? Ne m'appelez pas Noémie, qui signifie douceur, délice. Appelez-moi Mara, la mère. C'est son amertume qui ressort encore ici. Noémie est toujours enfermée dans une souffrance qu'elle ressasse. Elle reste inconsolable. Comblée par deux fils, elle revient avec un vide immense, un manque qui sont au cœur de sa vie actuelle. Elle attribue son malheur à Dieu, bien sûr. Celui qui forme la lumière et crée les ténèbres, qui fait le bonheur et crée le malheur, est-il écrit dans Ésaïe 45:7. Centrée sur elle-même et apitoyée sur son sort, voyez qu'elle ne parle même pas de Ruth qui est à ses côtés, qui l'accompagne et qui est aussi comme elle, une veuve marquée par le deuil et en plus qui n'a pas eu d'enfant. Mais de toute façon, pour Noémie, la présence de Ruth ne change rien à sa situation. Elle ne peut rien lui apporter. C'est le chemin du deuil où la tristesse accable, envahit tout. Elle empêche de voir et de se tourner vers les autres. On ne peut pas lui en vouloir à Noémie. Ceux qui passent par le deuil le savent bien. Et Ruth ne proteste pas, elle ne dit rien. Elle est là. Et la dernière partie. Ainsi revint Noémie avec elle Ruth, la Moabite, sa belle-fille, celle qui est revenue de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. J'ai noté un retour de situation intéressant dans ce verset. Le changement de statut de chaque femme. Noémie, l'exilée en Moab, revient dans son pays après plus de 10 ans. Et Ruth, la Moabite, autochtone dans son pays, devient immigrée dans le pays de Noémie. Qui est l'étrangère pour qui? La question ne se pose pas entre les deux femmes. Mais si on se la pose à nous, l'étranger, c'est qui? C'est celui qui a un accent ou celui qui ne parle pas une autre langue, qui parle pas la même langue que moi. Mais si je vais dans un autre pays, finalement, on est tous l'étranger de quelqu'un. Il y a aussi l'autre renversement des situations qui va avec celui-ci. C'est une famille juive qui est hébergée en Moab ennemi. Et comment le peuple juif accueillera-t-il une Moabite sur sa terre? Est-ce que Ruth regrettera son choix? Ne ratez pas le deuxième épisode. Et maintenant, les 20 minutes de conclusion. Non, il n'y en a pas puisque je suis au début de l'histoire, rassurez-vous. Mais je vous propose quand même de retenir 2 choses importantes. L'absence de jugement et de parti pris de l'auteur apporte des ouvertures qui nous font réfléchir. La mort de ces hommes, serait-ce autre chose qu'une punition divine? Orpah est libre de partir sans être blâmée. Qu'adviendra-t-il d'elle? A-t-elle fait le bon choix? Noémie n'est pas obligée de répondre à la promesse de Ruth, mais comment la reçoit-elle? La deuxième chose, ce sont les anormalités ou les digressions rencontrées dans le texte qui m'interrogent par leur nombre. J'en ai relevé 8 que je vous rappelle brièvement. Le livre déjà, il est le seul à porter le nom d'une païenne. La terre ennemie de Moab devient lieu de refuge d'une famille juive. 2 juifs épousent 2 moabites malgré l'interdiction de la loi. 3 femmes prennent leur destin en main dans une société patriarcale. Noémie bénit ses belles-filles moabites, sûre que son Dieu peut agir en leur faveur. 2 moabites ont une attitude exemplaire envers leur belle-mère juive, alors que ces femmes ont mauvaise réputation. Une relation forte entre 2 femmes qui sort de l'ordinaire. Une païenne renonce à son pays, ses dieux, pour se tourner résolument vers un peuple et un dieu qu'elle connaît à peine. Et en quoi sont-elles intéressantes? Souvenez-vous de l'époque choisie. Dans la rigueur de son application, la loi devient écrasante et étouffante. L'auteur parle de cette tension et apporte, à mon avis, une vision inspirée. Très subtilement, il met en place des situations plausibles, mais hors normes. Digressante, un rien provocante dans ce premier chapitre, et qui vont devenir une interpellation. Comment peut évoluer une situation quand tout a commencé de travers? Comment on va à l'encontre quand on va à l'encontre de l'ordre établi? Comment ça se passe quand on ne juge pas, quand on sort de son rôle attribué, mais que l'on est bon et généreux? Comment Dieu va-t-il intervenir s'il intervient? Fin du premier épisode.